Chapitre 51. On craignait fort le chemin qu'il fallait suivre pour arriver à Péluse, la première ville d'Égypte, en venant par la Syrie. Il y avait tout le désert à traverser, celui qui s'étend aujourd'hui de Jaffa à El Arish. Puis il y avait d'affreux marais qui étaient formés par une espèce de lac de vase que l'on nommait le lac Serbonide. Les Égyptiens, amis du merveilleux, appelaient ces marais le soupirail de Typhon. Les Romains, plus réalistes, prétendaient que c'était un écoulement de la mer Rouge qui, après avoir traversé sous terre la partie la plus resserrée de l'isthme, reparaît à cet endroit et vient se décharger dans la Méditerranée. Ce marais existe encore aujourd'hui et s'étend de Rosette à Rasbulose. Antoine prit les devants, s'empara de Péluse, s'assura des chemins et prépara le passage à l'armée. À sa suite, Ptolémée entra donc à Péluse. Comme c'était la première ville de ses états qu'il reconquérait, il voulut faire un exemple et ordonna de massacrer les habitants. Mais comme les hommes courageux et prodigues, Antoine avait bon cœur et le meurtre lui répugnait. Il prit sous sa protection non seulement les habitants, mais encore la garnison, et aucune exécution n'eut lieu. Ptolémée rentra dans Alexandrie, où Antoine donna d'autres preuves d'humanité qui lui concilièrent la bienveillance des habitants. Une de celles qui lui firent le plus d'honneur est celle-ci. Il avait été l'hôte et l'ami d'Archélaüs. Or, comme cela arrive dans les guerres civiles, Archélaüs était trouvé son ennemi, et un jour, les deux anciens compagnons en étaient venus aux mains. Archélaüs, battu, avait été tué. Antoine, à sa mort, fit chercher parmi les cadavres, retrouva son corps et lui fit faire des obsèques magnifiques. Cette piété lui valut la sympathie non seulement des habitants d'Alexandrie, mais encore des Romains mêmes qui combattaient sous ses ordres, de sorte qu'il revint à Rome avec une certaine popularité. C'était justement l'époque où Rome était divisée en deux factions, celle des nobles ayant à leur tête Pompée, celle du peuple qui faisait signe à César de revenir des Gaules. Nous avons dit qu'Antoine était l'ami de Curion et que Curion était très influent près du peuple. Cette influence doubla quand César eut envoyé 12 millions à Curion et 8 millions à Antoine. On employa une partie de cette somme à faire nommer Antoine tribun du peuple. Sans doute employa-t-on pour le faire nommer le même subterfuge que pour Claudius. Mais enfin, il fut nommé. Au reste, Plutarque raconte comment la chose se faisait. « Ceux qui briguaient des charges, dit-il, mettaient au milieu de la place des tables de banque, corrompant effrontément les masses à prix d'argent, et alors le peuple combattait pour celui qu'il avait payé, non seulement de son vote, mais encore avec des arcs et des frondes. Or, souvent, on s'éloignait de la tribune, celle-ci étant souillée de sang et entourée de cadavres, et la ville se trouvait dans l'anarchie. Quelque temps après qu'Antoine eut été nommé tribun du peuple, on l'associa au collège des augures. César, en l'achetant, achetait donc à la fois le peuple et les dieux. Maintenant, nous avons dit où en était César avec le Sénat, au moment où Antoine, à son retour d'Égypte, venait de traiter avec César. On a vu comment le Sénat avait refusé à César la prolongation de son gouvernement, et comment un officier de César, frappant sur son épée, avait dit « Celle-ci le lui donnera ». Restait un homme bien important pour César. C'était Paulus qui faisait bâtir la magnifique basilique qui remplaça celle de Fulvie. Paulus était gêné par les dépenses que lui occasionnait cette bâtisse. César lui envoya 7 millions pour l'aider. Paulus fit dire à César qu'il pouvait compter sur lui. On statua sur l'affaire du consulat. Le Sénat décida que César ne pouvait briguer le consulat sans venir à Rome. Alors Curion, au nom de César, fit une proposition. Il déclara que César était prêt à venir à Rome, seul et sans armée, mais à la condition que Pompée licencierait ses troupes et demeurerait à Rome, seul et sans armée. Si Pompée gardait son armée, lui, César, demandait à venir à Rome avec la sienne. Mais Curion appuyait sur le licenciement des troupes de Pompée en disant que César, ne se jugeant pas plus important que le dernier citoyen, pensait qu'il était mieux pour la République que lui et Pompée se trouvassent en face l'un de l'autre comme deux simples particuliers que comme deux généraux d'armée. Ils attendraient ainsi, chacun de son côté, les honneurs qu'il conviendrait à leurs concitoyens de leur décerner. Le consul Marcellus répondit à Curion et, en lui répondant, traita César de brigand. Il ajouta que, si César ne voulait pas mettre bas les armes, il fallait le traiter en ennemi public. Mais alors, Curion fut soutenu par Antoine, par Paulus, le deuxième consul, et par Pison. Il demanda au Sénat un vote visible, c'est-à-dire que ceux des sénateurs qui voudraient que César seul posât les armes et que Pompée retint le commandement, passassent tous du même côté de la salle. Cela ressemblait assez à notre vote par assis et levé. Et cependant, le plus grand nombre des sénateurs, presque tous même, passèrent du côté de la salle indiqué par Curion. Curion demanda la contre-épreuve, c'est-à-dire que ceux qui étaient d'avis que Pompée et César missent tous deux bas les armes et qu'aucun des deux ne conserva son armée, passassent de l'autre côté. 22 sénateurs seulement restèrent fidèles à Pompée. Pendant ces deux votes, Antoine était descendu sur le forum, avait raconté au peuple ce qui se passait au Sénat et avait échauffé son enthousiasme pour César. Il en résulta que, lorsque Curion descendit, annonçant la victoire qu'il venait de remporter en obtenant le désarmement, un triomphe l'attendait à la porte. On lui jeta des couronnes comme à un athlète victorieux et on le reconduisit avec de grands cris jusqu'à sa maison. C'était au tour d'Antoine d'agir. Il profita de ce moment d'enthousiasme du peuple pour César et fit décréter par le peuple que l'armée qui était rassemblée serait envoyée en Syrie pour renforcer celle de Bibulus engagée dans la guerre contre les Parthes. Ces deux décrets rendus, Antoine monta au Sénat et demanda à lire au sénateur une lettre qu'il avait reçue de César. Mais le Sénat avait changé d'avis, poussé par Marcellus. Marcellus s'opposa à ce qu'Antoine lût la lettre de César. Antoine la lut néanmoins, mais au milieu du bruit, de sorte qu'elle ne fut pas entendue. Alors il redescendit au forum et la lut au peuple. Pendant ce temps, Scipion, beau-père de Pompée, faisait décréter que si, à jour fixe, César ne posait pas les armes, il serait considéré comme ennemi public et traité comme tel. Cela ne suffit pas à Lentulus qui s'écria « Contre un bandit comme César, ce ne sont point des décrets qu'il faut, ce sont des armes. » Puis, employant la métaphore, « Je vois déjà, dit-il, 10 légions descendre des Alpes et s'avancer vers Rome. Citoyens, prenons le deuil. » Et le Sénat décida que Rome prendrait le deuil. Bon Sénat. Et Rome prit le deuil. Pauvre Rome !